Aparté. Chapitre 1. Si j'avais une pire ennemie, et si je souhaitais pour elle le pire des supplices, le plus doux, le plus lent, le plus cruel et le plus mutilant, je la jetterais dans les bras d'un écrivain, je veillerais à ce qu'elle en tombe amoureuse d'amour pur, et je la regarderais souffrir, en feuilletant négligemment un très très vieux match. J'avais à peine 19 ans, quand cette calamité m'est tombée dessus. 19 ans. Une enfant. Une orpheline en plus. Ouh, c'est bon ça, Coco. L'oiseau tombé du nid vide avec ses grands yeux tristes et son crâne rasé. De la chair bien tendre. De la chair bien tendre à roman. À premier roman. En plus d'un bel objet, un putain de beau sujet, non? Bon, j'arrête. Il s'est fait un nom depuis. Je lui ai porté chance. Ou plutôt mon cas lui a porté chance, et il n'a pas besoin de réclame. Il s'en charge très bien tout seul. Un jour, que je serai bien vieille, on viendra peut-être me poser une ou deux questions pour une note en bas de page. Mais en attendant, je préfère me taire. Paix. Paix aux artistes. Place au mythe. Juste une dernière chose alors. Le passage de ce garçon, de cet homme, de ce pillard dans ma vie, n'aura eu finalement pour seule réelle incidence que de me rappeler et de me conforter dans la certitude que la longue maladie et l'agonie de ma mère m'avaient inspirée quelques années plus tôt, à savoir que l'expression « ce qui ne te tue pas te rend plus fort » est complètement con. « Ce qui ne te tue pas ne te tue pas, point !» Phrase bien compliquée et probablement discutable sur le plan de la syntaxe, que je pourrais très bien simplifier en la résumant ainsi. Ce bâtard m'avait laminé la gueule. Seigneur Boileau, autant pour moi. C'était mon premier amour. Ce n'était pas la première fois que je couchais avec un garçon, mais c'était la première fois que je faisais l'amour et c'était le... Bon, j'ai dit que j'arrêtais, je m'y tiens. Je ne suis pas un écrivain, moi. Je n'ai pas besoin de me palucher avec le passé, de mettre mes émotions dans des tubes à essai et d'exploiter ce que j'ai vécu de plus cristallin pour en faire de la caillasse. Alors abrège, Mathilde, abrège. Ce peu de dignité de toi qu'il a eu la délicatesse ou la négligence d'épargner, ne l'abîme pas davantage, je t'en prie. D'accord, d'accord. Une ellipse, dans ce cas. Eh oui, il m'aura quand même appris deux ou trois trucs au passage. Préciser simplement, et pour les besoins de l'histoire qui nous occupe à présent, que cet adoré m'avait adressé de nombreuses lettres. D'amour, m'enorgueillissais-je alors, de gamme, d'écriture, ai-je été obligée d'admettre depuis. Que j'ai fini par jeter à la poubelle un soir que je m'en croyais libérée. Oui, que j'ai fini par noyer sous un monceau de mégots, de bouteilles vides, de coulures de marc de café et de démake-up bien crasseux. Alléluia! J'avais enfin réussi à les bazarder. Sauf une. Ah bon? Et pourquoi? Pourquoi celle-là? Parce que c'était la dernière. Parce qu'elle m'appartenait mieux que toutes les autres. Parce que j'ai eu, et j'ai encore la faiblesse de penser, qu'elle était sincère. Et quand bien même ne l'aurait-elle pas été, ça n'avait plus tellement d'importance. Que je suis assez honnête, moi, pour faire la part des choses entre le beau et le vrai. Et préférer le beau quand il s'impose. Parce que la question de déterminer si c'était de l'art ou du cochon ne m'a jamais paru intéressante. Parce qu'elle me rappelait que j'avais été aimée par un garçon talentueux, que je l'avais inspiré, et que oui, en dépit de tout, en dépit de lui, j'avais eu cette chance. Et parce qu'elle est belle, et que je l'étais aussi. Parce que j'ai grandi avec elle, parce qu'elle m'avait vu grandir, feuille de papier A4 des plus ordinaires, mais saturée de petits signes tracés à l'encre noire, et ainsi placés à la suite les uns des autres, qu'ils m'avaient trouvé tour à tour terriblement gêné, puis flatté, sceptique, écœuré, terrassé de chagrin, et penché au-dessus d'une poubelle, et enfin, ravisé. Ravisé, fataliste, conservatrice, gardienne. Simple gardienne du petit temple de ce qui me tenait lieu de vie avant de finir dans... mon sac à main. Par discrétion, pour ne pas tomber entre les mains de mes camarades de chambrée, ni de personne d'autre. Jamais. Elle se trouvait dans le petit soufflet caché à l'intérieur, le seul qui fut fermé à l'aide d'une fermeture éclair. Fine, discrète, insoupçonnable pour qui ne l'aurait pas cherché exprès. Elle y était toujours, seulement elle n'était plus dans son enveloppe, comme j'étais certaine de l'y avoir muré, mais autour de la dite enveloppe, en tenaille. En tenaille autour de mon nom et de mon adresse de l'époque, façon de me signifier, j'imagine, qu'elle avait été lue et qu'il était important que je le susse. Oh, maudite langue! Non, pas là, pas maintenant, pas à ce moment précis de mon récit. Et je ris. Et je ris toute seule et tout haut d'être assujettie à des règles de concordance aussi taquines. Et qu'il était important que j'en fusse informée. Voilà, c'est plus lourd, mais ça ira aussi. Oui, tu vois, j'ai demandé à un inconnu de rédiger l'enveloppe à ma place. La feinte est grossière, j'en conviens, mais ne me la renvoie pas. Pas cette lettre-là. Elle vaut mieux que moi, je te le promets. Si tu ne veux pas la lire maintenant, attends. Attends 2 mois, 2 ans, 10 ans peut-être. Attends l'indifférence. 10 ans, je suis bien prétentieux. Attends le temps qu'il faudra, mais un jour, s'il te plaît, déplie-la, s'il te plaît. Notre dernière conversation, notre ultime combat, devrais-je dire, me hante depuis des semaines. Tu me reprochais mon égoïsme, ma vilenie, mon intérêt. Tu me reprochais de m'être servi de toi, de t'avoir vampirisé, d'avoir été amoureux de ce que tu m'inspirais plutôt que de qui tu étais. Tu me reprochais de ne t'avoir jamais aimé. Tu te sens trahi. Tu m'as jeté à la figure que tu ne lirais plus jamais un seul livre de ta vie, que tu haïssais les mots autant que tu me haïssais moi, et même davantage, si une telle répulsion était humainement possible. Que les mots étaient des armes minables au service de minables dans mon genre. Qu'ils ne valaient rien, qu'ils ne disaient rien, qu'ils mentaient. Qu'ils abîmaient tout ce qu'ils touchaient et que je t'avais dégoûté d'eux à jamais. Maintenant, ce soir, dans 2 mois ou dans 2 ans, tu liras ceux qui suivent et tu sauras, mon amour, que tu n'avais pas toujours raison. Tes paupières closes lorsque tu t'abandonnais dans mes bras, Mathilde, ressemblaient à l'intérieur des coques de litchi. Le même pailleté iridescent, le même rose, inattendu et poignant. Les mignons lobes de tes oreilles étaient comme 2 crêtes de chapon bien gras, minuscules galets de porcelaine amoulis, attendris, fondant d'avoir mijoté si longtemps dans un jus de salive par tes baisers sans cesse écumés, et leurs méandres de cartilage, une agacerie, des beignets de carême, une fricassée de têtes d'oiseaux. La base de tes cheveux, cette odeur, là, dans ta nuque, juste au-dessus de ce delta, de cette brèche secrète et duveteuse, de cet entonnoir à caresses, avait l'amertume piquante de la mie véritable des pains au levain. Et tes ongles, pour qui les avaient longtemps sucés, étaient autant d'amandes mondées un peu trop tôt avant la fin de l'été. Du creux de tes salières perlait un suc vinaigré qui piquait la langue, et du bombé de ton épaule venait sa consolation. Le frais, le grainé fin, la chair fondante d'un cul de poire. Une beurrée d'anjou tétée dans la pénombre du cellier. À la commissure de tes lèvres, ces minuscules bulles de salive, quand tu riais aux éclats, crépitaient en larmes de brute rosée. Et le bout de ta langue, on adorait, avait le grenu, le grenat, le rêche pâle et délicat des fraises des bois. Comme elle, adorable sainte Nitouche cachée, secrète, farouche et éperdument, éperdument sucrée. La pointe de tes seins, 2 févettes de Provence, les premières, celles que l'on ramasse en février et qui se méritent, car il faut les éplucher à cru, tandis que leur galbe, sous ma main, avait le moelleux ambré, lisse, gai et parfumé des beurres de printemps. Les vallons qui menaient à ton nombril, pour peu que l'on ait su te moitir d'aise, rappelait cette sorte d'acidité sucrée des couetches cueillies dans les vergers oubliés, et réveillait heureusement une bouche étourdie d'avoir happé tant d'onctuosité. Tes hanches façonnaient deux bonnes têtes de brioche, et le creux de tes reins avait, à toujours, j'imagine, non, je me souviens, le goût suave des fleurs d'acacia. Fragrance entêtante et impérieuse, que l'arrondi de tes fesses prolongeait en l'exhalant, jusque dans ces exquises fossettes gravées à la pliure de tes cuisses. Ces collets de chair tendre, douce et polie, qui emprisonnaient souvent des doigts trop hardis. La voûte de tes pieds était musquée, le creux de tes chevilles amer, l'arçon de tes mollets fruité, le revers de tes genoux salés, l'intérieur de tes cuisses minéral, et ce qui venait dedans, et ce qui venait ensuite, et ce qui perlait enfin, une réduction de tout ce qui m'y avait mené, un fond de toi et de tout l'univers. Or ce goût, le goût de ton être, princesse des temps modernes, délicieuse, inconvenante et tatouée, dont je me serais servie alors et que j'aurais abusée, eh bien, je n'ai plus que les mots pour m'en délecter. Hélas, ces misérables outils, et c'est toi qui me l'as rappelé, n'ont aucun mérite. Ils ne savent rien, n'inventent rien et n'enseignent rien. Quand ils se souviennent, ils rapportent. Plus que ta peau, tes cheveux, tes ongles ou ton odeur, c'est ton essence, tes humeurs, la sève de ton ventre, ta pectine, ta cyprine, ton suc, ce messager, ce liftier, ce mouchard de ta faim, de ta soif et de tes vertiges, cet enfant de cœur de tes désirs qui me met, cette nuit encore, l'eau à la bouche. Quel goût avait-elle, ta bien-aimée, s'enquirent les 26 lettres du seul alphabet que l'on m'eût jamais appris, et dans quel ordre nous rangerais-tu, toi, si tu nous mettais au défi de le lui apprendre? Ni d'hirondelle, figue tiède, abricot trop mûr, minuscule framboise gobée sous un crachin serré. Quelquefois, des rayures, quelquefois, écorchure des marées, saignée de lame et sang de lune, ou laitance, ou lactescence, colostrum d'Aphrodite, terrifiant mélange de lait maternel et des morves de bêtes en rut, truffe en aumônière, bouquet garni de lèvres et d'ourlets de chair pochés à grand mouillement, raie éviscérée, chair rose à l'arête, eau des coquillages, jus infiltré sous les carapaces, émulsion de corail d'oursin, succion d'encre de chipieron pêchée à la turlute, bêtise de cambrai, pointe de berlingot à la langue émoussée, roudoudou d'ambroisie, cédra rouge aux zestes iodés, vie. Oh, Mathilde, je renonce. Je t'ai aimée. Je t'ai plus aimée que je ne saurais le dire, et beaucoup moins bien.